de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'armée ougandaise admet avoir tué 189 combattants d'Al-Shabaab en Somalie. Hong Kong verrouille des milliards de personnes aux tests COVID-19 obligatoires. Le ministère des Affaires marines et de la pêche fait pression pour la création de 3 zones de conservation à Kalimantan. Luhut a essayé l'outil de détection COVID-19. Genose aux notes de transport. La réunion ministérielle a lancé le plan directeur numérique de l'ASEAN 2025. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Les soldats ougandais qui ont rejoint les forces de la mission de paix en Somalie admettent avoir réussi à tuer 189 combattants d'Al-Shabaab liés à Al-Qaïda lors d'une attaque contre l'un de leurs camps, selon le communiqué de l'armée ougandaise de samedi. Les soldats font partie d'une mission de paix de l'Union africaine en Somalie qui vise à soutenir le gouvernement central du pays et à mettre un terme aux efforts d'Al-Shabaab pour renverser le gouvernement. Les forces de défense du peuple ougandais, ou UPDF, ont déclaré dans un communiqué que leurs soldats avaient assiégé la cachette d'Al-Shabaab dans les villages de Sigale, Adimol et Kayitoy, qui ne sont qu'à environ 5 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. Selon le PDF, l'embuscade a permis aux troupes d'intervenir contre 189 combattants liés à Al-Qaïda et de détruire un certain nombre d'équipements et d'articles militaires utilisés lors d'attaques terroristes. Le gouvernement de Hong Kong a verrouillé une zone de la péninsule de Kowloon samedi, affirmant que ses 10 000 habitants doivent rester chez eux jusqu'à ce qu'ils soient tous testés pour le nouveau coronavirus et que les résultats soient connus. Le gouvernement dit qu'il y a 70 bâtiments dans la zone restreinte et vise à terminer le processus en environ 48 heures afin que les gens puissent commencer à travailler lundi. Les autorités de Hong Kong ont pris des mesures agressives pour lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le centre financier et la compagnie aérienne asiatique, mais la décision de samedi était le premier verrouillage dans la ville sous domination chinoise. La secrétaire à la santé, Sophia Chan, a déclaré que de nombreux bâtiments étaient vieux et mal entretenus dans des zones petites et densément peuplées où les unités divisées étaient courantes, alors que le risque d'infection dans la communauté est assez élevé. Le ministère des Affaires marines et de la pêche encourage la détermination de 3 zones de conservation situées à divers endroits sur l'île de Kalimantan afin de renforcer la mise en œuvre de la conservation dans la zone. Les trois zones sont la zone de conservation de la ville de Bontang, Kalimantan de l'Est, la zone de conservation de l'île de Tanjung Chantik et Sinela, Kalimantan du Nord, et la zone de conservation Tanah Kuning Mangkupadi, Kalimantan du Nord. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Agence de gestion des ressources côtières et marines de Pontianak, Gatreda M. Hehanusa, dans un communiqué de presse, comme l'a rapporté samedi Antara. En outre, le BPSPL Pontianak évaluera l'efficacité de la gestion dans 8 zones de conservation désignées et collectera des données sur les places de poissons menacées telles que le dugong, le sidat, l'holoturi, le napoléon, le carang et la ruana. Le ministère des Affaires marines et de la pêche fournira également une assistance à COMPAC, au groupe communautaire favorisant la conservation, pour mettre en œuvre des services permettant d'utiliser les espèces de l'annexe CITES ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction de manière durable. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a assisté samedi à un essai sur l'utilisation de l'outil de détection COVID-19 Gnose à la gare de Pasar Senen dans le centre de Jakarta et a tenté de l'utiliser. Il est prévu que l'essai de l'outil de détection COVID-19 fabriqué par l'Indonésie soit utilisé au neutre de transport en commun. Dans une déclaration écrite rapportée par Antara à Jakarta samedi, l'outil Gnose était une solution au problème des outils de dépistage et de diagnostic qui sont actuellement assez chers et dont la disponibilité est limitée. Luhut a examiné la mise en œuvre de l'outil de détection COVID-19 Gnose, entre autres accompagné du ministre des Transports Budi Karya Sumadi, du président directeur de PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartianto, et du personnel spécial du ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, professeur Satrio Brojonegoro, et le professeur Eko, en représentant de l'équipe Gnose de l'Université Gadjah Mada. Gnose est un outil de détection de COVID-19 qui est utilisé pour améliorer le dépistage de COVID-19 par des respirations avec étape 4T, à savoir tracking, tracing, testing et treatment. La première réunion des ministres du numérique de l'ASEAN, ou ADG MINAN, qui s'est tenue en ligne à Putrajaya vendredi, a lancé avec succès le plan directeur numérique de l'ASEAN 2025, ou ADM 2025, sous la direction de Malaisie, qui cartographiera le paysage numérique de la région pour les 5 prochaines années. Selon les informations du secrétariat de l'ADG MINAN, l'hôte d'ADG MINAN a eu l'honneur de coordonner l'élaboration de l'ADM 2025 pour l'ASEAN, qui est un plan directeur quinquennal qui vise à faciliter la coopération régionale dans le développement du secteur numérique dans l'ASEAN. ADG MINAN arrive à un moment très difficile et critique car l'écosystème numérique joue de plus en plus un rôle dans la vie des gens et des entreprises dans toute l'ASEAN, en particulier à cause de la pandémie de COVID-19. ADM 2025 devrait stimuler la croissance de l'économie numérique dans la région qui a plus de 600 millions d'habitants. Selon le rapport Economy CE 2020, l'économie numérique de la région était évaluée à 100 milliards de dollars l'an dernier et devrait augmenter de plus de 300 milliards de dollars en 2025. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Thank you.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le gouvernement indonésien prolongera le PPKM ». Le gouvernement indonésien prolongera à nouveau l'application des restrictions aux activités communautaires ou en indonésien, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ou abrégéan PPKM sur les îles de Java et de Bali pendant 2 semaines, du 26 janvier 2021 au 8 février 2021. Cela a été transmis par le ministre chargé de la coordination des affaires économiques, qui est également le président du comité pour la gestion du COVID-19 et la reprise économique nationale, Airlangga Hartarto, dans sa déclaration au bureau présidentiel de Jakarta jeudi le 21 janvier 2021 après une réunion limitée avec le président et des responsables concernés. Selon lui, cette extension de politique a été décidée par le président Joko Widodo lors de la réunion. Le PPKM continue le PPKM qui était en vigueur auparavant dans cette province, à savoir DKI Jakarta, Banten, Java de l'Ouest, Java Central, Yogyakarta, Java de l'Est et Bali, avec 73 régions ou villes. Basé sur le suivi du premier PPKM, il y a 29 districts ou villes qui sont toujours à haut risque, 41 districts ou villes à risque modéré et 3 districts ou villes à faible risque. Pendant ce temps, à partir de cette province, il y avait encore une augmentation de cas dans 5 provinces avec 2 provinces, à savoir Banten et Yogyakarta, connaissant une diminution des cas. Un certain nombre de ces paramètres sont à la base de la considération du gouvernement pour mettre en œuvre le PPKM dans les 2 prochaines semaines. Airlangga espère que chaque responsable régional pourra évaluer le PPKM qui fonctionnait auparavant basé sur des paramètres d'un taux de guérison inférieur au niveau national. Le taux de mortalité est supérieur au niveau national. Le taux de positivité est supérieur au niveau national et le taux d'occupation des lits est supérieur au taux national. Le PPKM visant à supprimer la propagation du COVID-19 réglemente les limites d'un certain nombre d'activités, y compris le temps de fonctionnement des centres commerciaux et des restaurants jusqu'à 20 heures, la capacité totale au travail, à savoir 75% des employés travaillant à domicile, l'enseignement et l'apprentissage en ligne d'activités, jusqu'à une limite maximale de 50% des congrégations de culte de la capacité totale. Les activités de construction définies et les secteurs d'activité essentiels peuvent rester pleinement opérationnels en régulant les heures de fonctionnement et en mettant en œuvre des protocoles sanitaires stricts. Pendant ce temps, en ce qui concerne le secteur des transports, selon Airlangga, le gouvernement central a laissé les arrangements aux gouvernements régionaux respectifs.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku我着用して、COVID-19の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る、あなたのマスクは私を守ってくれる。我口咽的口、virus COVID-19min khilalir tidak il aqni'a bi shaklin sahih。qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini。让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande de übertragung skete det covid-19 virus, du riktiga stragen från masker. Mein Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 24 janvier. On commence par le 24 janvier 1916, la naissance de Sudirman. Le grand général Raden Sudirman est l'un des héros nationaux les plus célèbres d'Indonésie. Il est né à Purbalingga, Java Central, le 24 janvier 1916. En 1944, il rejoint l'armée de défense intérieure ou en indonésien, Pembela Tanah Air ou abrégé en PETA, parrainé par le Japon, servant comme commandant de bataillon à Banyumas. Après l'indépendance de l'Indonésie, dans une bataille avec les troupes japonaises, il réussit à s'emparer des armes des troupes japonaises à Banyumas. Après la formation de l'armée populaire de sécurité ou abrégé en TKR, il a été nommé commandant de la division 5 ou Banyumas avec le grade de colonel. Et par la conférence de l'armée populaire de sécurité le 2 novembre 1945, il a été élu commandant du TKR ou commandant des forces armées de la République d'Indonésie. On a dédié son nom au nom de la rue principale dans diverses régions. Le 24 janvier 1927, le réalisateur Alfred Hitchcock a publié son premier film, The Pleasure Garden, en Angleterre. Sir Alfred Joseph Hitchcock est un réalisateur anglais célèbre pour ses films à suspense. Influencé par le mouvement expressionniste en Allemagne, il a fait ses débuts de réalisateur en Angleterre avant de finalement travailler aux États-Unis en 1939. Avec plus de 50 films au cours de ses 6 décennies de carrière, il en a fait l'un des réalisateurs les meilleurs et les plus populaires de tous les temps. Son innovation et sa vision ont influencé d'innombrables cinéastes, producteurs et acteurs. Le 24 janvier 1939, le tremblement de terre au Chili. Le 24 janvier 1939, il y a eu le pire tremblement de terre de l'histoire dans le sud du Chili, avec une magnitude de 8,3 sur l'échelle de Richter. On a estimé que 28 000 personnes ont été tuées. Après la catastrophe, le gouvernement chilien a créé une agence de coopération au développement pour reconstruire le Chili. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan.
cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan
semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie intitulée TNI gère le défilé au feu PON 20 de Papouasie. Le Grand Comité pour la 20e Semaine Nationale des Sports de Papouasie, ou PB PON, a confié à l'Armée Nationale Indonésienne, ou TNI, pour la gestion du défilé au feu PON qui traversera les districts ou villes des 5 territoires Koutoumière, Abumi, Cendrawasih, la région de plus orientale République d'Indonésie. Le président de la compétition, de l'arène, de l'équipement et des cérémonies, Yusuf Yambe Yabdi a déclaré aux journalistes à Jayapura via le site web de PB PON de Papouasie samedi que le défilé serait remis et que tous les incendies de PON ont été emmenés au TNI parce que le fardeau de PB PON était trop lourd pour qu'il ne puisse pas s'occuper de tout, et ce PON est un événement national qui n'a lieu qu'en Papouasie. Par conséquent, selon Yusuf Yambe, la synergie entre toutes les composantes de ce pays doit être optimale pour le succès de PON. Pendant ce temps, d'autres types de cérémonies telles que l'accueil des contingents et l'honneur de contingents, l'honneur de gagnants, le dîner de gala et autres sont toutes gérées par PB PON. Le défi est difficile pour PB PON à porter, à savoir défiler et prendre le feu de PON, car il est pris à Bintuni et doit passer par ses zones habituelles. Yusuf Yambe a estimé que le TNI a une organisation très solide qui s'étend à tous les districts ou villes et même à travers les provinces, et cela a été approuvé par le chef de jour. Auparavant, le président du PB PON Papouasie du jour, Yunus Wonda, a déclaré que le défilé au feu de PON avait dépassé les représentants des districts de 5 zones Koutoumière avant de se terminer au stade Papua Bangkit le 2 octobre 2021. Les 5 territoires traditionnels comprennent les districts de Biak, Saireri, Wamena, Lapago, Mimika, Mepago, Merauke, Animha, la ville de Jayapura, et le district de Jayapura, Mamta. Yunus Wonda a déclaré que la procession de prise de feu pont, au début à la fin, serait gérée directement par le TNI, car ils étaient sous les champs de la cérémonie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Aujourd'hui, nous vous invitons à Yogyakarta pour profiter de l'une des attractions touristiques situées sur la rue Hutan Pinus ou Forêt de Pins de Nganjir, district de Delingo, région de Bantul, Yogyakarta, à savoir Seribu Batu Songgolangin. Le nom Seribu Batu Songgolangit, qui signifie soutenir le ciel, a sa propre signification. Parce que dans Seribu Batu Songgolangit, il y a une colline qui semble être en pilière du ciel. Avant de devenir un lieu touristique, il y avait à cet endroit des milliards de rochers et des forêts de pins. Pour aller au site touristique Seribu Batu Songgolangit, vous pouvez utiliser des véhicules à deux roues, quatre roues ou des bus. Cette attraction touristique est à environ 21 km du centre-ville de Jogja et prend environ 40 à 45 minutes. Pour entrer dans l'attraction touristique Seribu Batu Songgolangit, les visiteurs doivent payer un ticket d'entrée de 3000 rupiah par personne, de 2000 rupiah pour des frais de stationnement de moto, 5000 rupiah pour une voiture et 20000 rupiah pour le bus. En entrant par la porte Seribu Batu Songgolangit, les visiteurs doivent d'abord descendre une échelle en bois pour atteindre le premier endroit. Cet endroit offre une maison de conte de fées aux mille bois et à la forme d'une petite maison qui ressemble à une maison naine dans un conte de fées. Là, vous pourrez vous asseoir et vous détendre sur une scène en pin, prendre des photos et profiter de l'air frais typique des forêts de pins. Après avoir passé le lieu unique de la maison de Hobbit, les visiteurs peuvent continuer vers le point culminant du site touristique de Seribu Batu Songgolangit, à savoir la colline Songgolangit. Cet endroit est à environ 1 km de la maison Hobbit. Ne vous inquiétez pas, car sur la route de Songgolangit, il y a plusieurs endroits pour se détendre pendant un moment. En arrivant au sommet de Songgolangit, vous verrez une très belle vue où vous vous sentirez au sommet du ciel où les gens diront que le deuxième étage est Jogja. En plus de profiter de l'air frais sur une haute colline, de voir la vaste étendue de rizières et de zones résidentielles, vous pouvez bien sûr vous contenter de prendre des selfies. Le meilleur moment pour visiter Seribu Batu Songgolangit est le matin ou le soir, car à cette heure, le soleil n'est pas si chaud. En plus de faire attention au temps de visite, les visiteurs doivent également préparer suffisamment d'endurance et ne pas oublier d'apporter des nourritures. Cependant, si vous ne l'apportez pas, ne vous inquiétez pas, car ici, il y a des étals culinaires qui fournissent de la nourriture et des boissons.
Bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan itari taman ria bersama jalani bersama I
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers auditeurs, l'Indonésie en couleur cette fois-ci vous donne de l'information sur une pâte créée Automager, la première machine d'extraction d'ARN fabriquée en Indonésie. Pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de l'examen des échantillons de COVID-19. Pendant ce temps, il existe encore de nombreux laboratoires qui sont inadéquats ou ne disposent pas de machines automatiques. Pour cela, un certain nombre de chercheurs de l'Université Pajajaran ou UNPAD de Bandung, Java de l'Ouest, ont réussi à développer une machine d'extraction d'acide ribonucléique indépendante basée sur la robotique ou la robotique automatisée. Cet outil appelé Automagnetic Extractor, ou abrégé en Automager, est prétendu être la première machine d'extraction d'ARN fabriquée en Indonésie. Ce produit a été développé par plusieurs chercheurs de la faculté de médecine et de la faculté de mathématiques et sciences naturelles UNPAD, à savoir Savira Ekawardhani, Sabarni Ghaffar, Lia Farida et Hestilina Wiraswati. Savira, dans son communiqué de presse, a expliqué qu'au départ, le développement d'Automager était destiné à l'extraction d'ARN pour le virus du paludisme et de la dengue. Cependant, comme de plus en plus de personnes étaient infectées par COVID-19, cette équipe l'a ensuite développée de manière intensive pour faciliter le processus d'examen PCR à partir d'échantillons de COVID-19. Safira a déclaré qu'à l'heure actuelle, pas tous les laboratoires disposent des machines robotiques pour extraire des échantillons d'ARN. On a estimé qu'il était difficile d'ajouter de nouvelles unités de moteur parce qu'elles devaient être importées et étaient très coûteuses. Techniquement, Automager fonctionne pour extraire des échantillons de cellules pour l'ARN à prélever, ce qui est nécessaire dans les examens PCR. Les échantillons qui ont été placés dans le milieu de transport viral ou VTM sont purifiés par Automager afin que l'ARN soit complètement séparé des cellules. Bien que l'équipe de recherche UNPAD ait également créé un milieu de transport viral indépendant qui peut inactiver les virus, Automager est capable d'obtenir de l'ARN pur. Actuellement, Automager attend toujours l'autorisation de distribution du ministère de la Santé. De plus, explique Savira, le travail d'Automager consiste à adapter la machine d'extraction Kingfisher, la meilleure machine d'extraction du marché. La capacité d'extraction correspond à la machine Kingfisher, qui est de 96 échantillons par opération et ne prend qu'environ 1 à 2 heures. Ce résultat est bien plus que la machine d'extraction sud-coréenne avec une capacité d'extraction d'environ 18 à 30 échantillons seulement. Presque tous les matériaux et processus de production de cet outil sont réalisés au niveau national. On espère qu'Automager pourra être une solution pour fournir des machines d'extraction automatique pour prendre en charge l'examen des échantillons COVID-19. Bien sûr, avec des kits et des réactifs qu'il peut se procurer facilement et à des prix compétitifs.
Of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, 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 oh. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oh, 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 oh. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Bonsoir à tous, cette fois je vous donne une chanson de Raïssa. Raïssa et Andy Rianto, un compositeur de chansons, ont sorti un nouveau single intitulé Bahasa Kalbu le 28 août 2020. Le single qui avait été précédemment popularisé par une diva en Indonésie, Titi DJ, est sorti numériquement via la chaîne YouTube de Raïssa. Raïssa et Andy Rianto espèrent que le nouvel arrangement de cette chanson pourra donner une impression plus luxueuse, intime et puissante. Par la chanson intitulée Bahasa Kalbu, ou en français Langue du cœur, avec l'arrangement nuancé principal de l'orchestre, les auditeurs et les fans de Raïssa peuvent apprécier Raïssa, qui est différente de l'habituel. Auparavant, les chansons de Raïssa étaient arrangées en musique pop avec un format de groupe complet rempli des instruments de guitare, clavier, batterie et basse, comme la musique. Bon, chers auditeurs, voici la chanson du Bahasa Kalbu, ou en français Langue du cœur, en version de Raïssa et Andy Rianto. Bonne écoute!
Thank you.
kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.